introductif de ce message, de cette prédication. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et les trois premiers versets que nous porterons nos regards ce matin. Des paroles qui sont merveilleuses, qui sont très connues par les lecteurs de la Bible, mais sur lesquelles on va revenir ce matin, parce que je crois qu'elles sont destinées à beaucoup, et peut-être même certainement à tous, d'une manière individuelle, ce matin. Jean 14, verset 1, c'est Jésus qui parle, et il adresse ses paroles à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Gloire à Dieu. Voilà ces paroles qui vont être le point central de mes réflexions ce matin. Le Seigneur Jésus adresse à ses disciples un message très précis et sous la forme de l'impératif. Le sujet est donc très important. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ce matin, j'aimerais centrer mon propos sur ce sujet particulier. Le Seigneur veut soigner nos troubles. Le Seigneur veut soigner nos troubles. Ce n'est pas d'une manière fortuite et anodine que Jésus adresse à ses disciples cet encouragement, cet impératif, parce qu'il a constaté, car on ne peut rien lui cacher, il a constaté que ses disciples sont profondément troublés, que leur cœur est troublé. Et le mot trouble est un mot généraliste qui exprime un mal-être, des dispositions bousculées. Ça peut être le trouble de la tristesse, le trouble du deuil, le trouble du chagrin. Ça peut être le trouble de la culpabilité, le trouble d'un échec récent. Ça peut être le trouble de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété. Il y a tout un éventail de nuances de ce domaine oppressant du trouble. Tout à l'heure, Jean-Philippe, en introduisant un de ses premiers cantiques, a dit cette phrase: « Si aujourd'hui ta vie est troublée, et si ton cœur est agité. » Et quand j'ai entendu ces paroles, ça m'a renforcé dans la certitude que c'est le message de Dieu pour nous ce matin, afin qu'en ressortant de ce lieu, nous en ressortions libérés de nos troubles, vainqueurs sur nos troubles, et qu'en place et en lieu de nos troubles, il y ait un esprit de victoire, une joie qui est la joie de l'Éternel, qui va changer nos regards des événements et des gens, qui va changer notre mode de pensée, qui va chasser les nuages lourds et menaçants et faire revenir le triomphe de la lumière de Dieu dans nos vies. Il y avait de quoi être troublé. Il y avait de quoi être troublé, car si vous lisiez, même faites-le à la maison, le chapitre précédent et les versets précédents, vous constateriez au moins quatre éléments qui ont déclenché du trouble chez les disciples. Ils sont là, et par exemple, au chapitre 13 et au verset 21, il est écrit, comme vous le lisez là, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, il y a une insistance, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et ça a mis le trouble, mes amis. Ça a plombé l'ambiance. Et ça a mis une agitation dans le cœur des disciples. Les disciples se regardaient les uns les autres. Ils s'interrogeaient, c'est toi, c'est moi, c'est qui ? Ils vont même demander à Jean, qui avait son visage contre la poitrine de Jésus, dans une posture d'intimité, demande-lui qui ? De qui s'agit-il ? Les disciples sont troublés et je dirais, mes frères et mes sœurs, que ce premier facteur de trouble, c'est la trahison. Quelqu'un me livrera. La trahison. Et j'aimerais aussi ajouter que s'il s'agit ici de la trahison que Judas va commettre à l'encontre de Jésus, dans la vie de tout chrétien normal, il y aura aussi en chemin la trahison. C'est terrible, la trahison. Moi, quand je me suis converti dans l'innocence, la fraîcheur, la spontanéité de ma foi toute jeune, toute fraîche, mais j'étais très loin d'imaginer qu'en chemin, je rencontrerais ce spectre effrayant, la trahison. La trahison, c'est, ça suscite, mes amis, un choc violent. C'est quoi le sentiment de trahison ? C'est un chrétien qui investit sa confiance, qui investit son amour, qui parfois même investit des confidences. Et puis, à un moment donné, la personne dans laquelle j'ai investi sincèrement mon amour me déçoit. Alors, j'aimerais vous dire ici, j'ouvre une parenthèse, si vous cherchez une église où il y a zéro risque d'être déçu, ne vous fatiguez pas, vous ne la trouverez pas. Et j'aimerais ajouter à quelqu'un ce matin qui souffre du sentiment de trahison, qui souffre du fait d'avoir aimé, d'avoir confié, d'avoir partagé en toute sincérité, et puis à cause d'une défaillance d'autrui, tu te sens trahi. Quel choc ! Il y a de quoi être troublé, pire, d'être complètement désemparé. Le sentiment de déception qui engendre une perte de confiance. Moi, je me dis, celle-là ou celui-là, c'est terminé. Moi, je lui dis plus rien. C'est bonjour, au revoir, même pas ça va. C'est une perte de confiance. Et mes amis, quand Dieu voit en nous la perte de confiance et le trouble du sentiment de trahison, il nous sait fragiliser. Un chrétien qui a perdu sa confiance est un chrétien fragilisé. Je ne vais pas vous le faire répéter là. 1, 2, on y va, on répète. Un chrétien qui a perdu sa confiance est un chrétien fragilisé. Et le Seigneur ne veut pas nous voir dans la fragilité. Alors il nous adresse, tout à l'heure on parlera de la médication spirituelle du Seigneur Jésus. Mais déjà, je t'encourage à ne pas rester figé dans ton manque de confiance. Je comprends, et Dieu surtout comprend, le choc. la déception, la désillusion. Et cette tendance naturelle, alors de reprendre ta confiance et de perdre ta confiance en telle ou telle personne. Cette perte de confiance va m'amener à me mettre sur la défensive, en retrait. Ça va me crisper. Je vais verrouiller mon cœur. Il n'y a rien de plus délicat et long que de reconstruire la confiance. C'est vrai ou non ? Cependant, c'est possible. Et c'est la volonté de Dieu de reconstruire dans ton cœur la confiance que tu as peut-être retirée. De te rassurer, d'ouvrir les verrous, de rompre tes chaînes, de te sortir de la posture défensive pour t'ouvrir à nouveau et prendre la victoire sur ce premier facteur de trouble, que votre cœur ne se trouble point. Et puis, autour de la table, le dialogue avec ses disciples se poursuit. Et il y a ce verset 33, dans le même chapitre, Jean chapitre 13, et au verset 33, alors que Judas vient de sortir, il y a maintenant les 11, et aux 11 qui sont là, Jésus leur dit ces paroles. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Imaginez l'impact que ces paroles de Jésus ont eu sur les disciples. Je suis pour peu de temps avec vous. Et Jésus lui-même dit et annonce, vous me chercherez. Et il adresse ces paroles à ses disciples en les appelant mes petits enfants. Alors moi je fais l'association de tout ça. Et j'imagine une scène, je m'y suis trouvé, peut-être certains, lorsque vous étiez gosse, vous vous y êtes trouvé aussi. Je m'imagine un petit enfant qui a perdu le contact avec son papa, avec sa maman, puisqu'il les appelle mes petits enfants. Bientôt, vous ne me verrez plus. C'est le facteur que j'ai nommé ici, le facteur de la séparation. La séparation. Je me souviens, j'avais 7 ans environ, dans ma ville natale à Yerevan, nous étions chez des amis avec mes parents et ma petite sœur, et nous étions là, dans un quartier populaire, hein, et j'ai dit à papa, « Papa, j'aimerais aller me promener un peu. » Va mon petit, mais ne tarde pas, c'est une petite promenade et tu reviens. Tu es sûr que tu vas trouver le chemin pour revenir ? Oui papa, je suis assez grand. Et je suis parti, je me revois encore. Et vous savez, quand on est gosse, on n'a pas le souci de savoir prendre des repères. On voit un petit chiot, on joue avec, on court derrière, on voit un chat, on court derrière, on lui fait peur. Et c'est ce que j'ai fait. Hein, et il y a un moment, je me suis dit, il faut que tu rentres quand même. Et là, un gros problème. J'étais perdu. J'étais perdu. J'étais sans repère. Un petit gosse de 7 ans, sans repère, séparé de papa et séparé de maman. Et je me revois. J'ai pleuré, allez, j'ai fait un petit peu de stage à Marseille, des litres de larmes. Enfin, j'ai pleuré chaudement, quoi. J'ai pleuré. Parce que, rapidement, la prise de conscience que j'étais perdu m'a rempli d'une telle angoisse, je ne pouvais plus l'exprimer. J'ai pleuré un bon moment jusqu'à ce qu'une passante soit attiré par mes larmes et dit, mais mon petit, qu'est-ce qui t'arrive ? Et j'explique, J'ai perdu mes repères, je ne sais pas, je dois rentrer, je ne sais pas où habitent mes parents. Et elle m'a questionné, question après question, elle a compris, et elle m'a pris par la main, déjà ça m'a rassuré à moitié, et elle m'a conduit, et quand j'ai vu papa et maman, j'ai sauté dans leurs bras, et là, je me suis dit, mais t'as été bête, hein. Mais oui, mais quand on est séparé, la séparation, c'est un sujet de trouble. Permettez-moi de revenir à nous ce matin, et dans le bel auditoire que vous formez. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans un état de séparation. Quand ma Bible me parle de ma condition de jadis, elle me dit, vous étiez sans Dieu, sans espérance, sans Christ, séparation. La séparation, c'est la condition naturelle de l'être humain quand il vient au monde. Pourquoi ? En raison du péché. Le péché, qui est le problème avec un P majuscule de l'humanité, le péché a comme conséquence immédiate de marquer une coupure, une séparation d'avec Dieu. Et pourquoi l'homme est tellement troublé aujourd'hui ? Comme il l'est depuis la chute d'Adam et d'Ève. Pourquoi la société est-elle aussi agitée? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant d'actes destructeurs? Pourquoi le monde est-il à ce point saisi de spasmes et de misère, de souffrance? Parce que tout simplement, il y a un état de séparation, mais gloire à Dieu qui nous a envoyé le Sauveur pour qu'il y ait le contraire de la séparation, la réconciliation. Parce que le message de l'Évangile est un merveilleux message, parce qu'il proclame qu'il y a un moyen pour tous ceux qui sont séparés de Dieu de rencontrer Dieu et de se réconcilier avec Dieu. Et en se réconciliant avec Dieu, tu te réconcilies avec toi-même. Quelle est belle la notion de la réconciliation. C'est merveilleux. L'apôtre Paul était fier d'être l'ambassadeur et le proclamateur de ce message de la réconciliation, et quand il prêchait la réconciliation, il y mettait tout son amour et toute la solennité de la chose en disant, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et j'aimerais supplier quelqu'un ce matin. Ça peut être un homme d'un certain âge, un ado, une adote, un jeune, ça peut être une femme quadragénaire, que sais-je, quel que soit un enfant, quel que soit ton âge, ta condition, j'aimerais te supplier, si tu ne l'as pas encore fait, réconcilie-toi avec le Dieu qui t'aime, le Dieu qui veut te sauver. La réconciliation est la réponse et la victoire sur la séparation. Et il n'y a rien de plus tragique et de plus perturbant que la condition de séparation d'avec Dieu. Au fait, permettez-moi de vous dire que les quatre facteurs de trouble dont je vais vous parler ce matin, Jésus lui-même les a connus avant nous. En tant que fils de l'homme, parfaitement homme à l'exception du péché, avant nous, il a connu la trahison, il a connu la séparation. Puisqu'au Golgotha, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça ne s'était jamais produit, ça ne se produira plus jamais, mais il a passé par là. Il comprend l'anxiété insupportable qu'il y a à se sentir coupé de la source d'espérance, de la source de vie qu'est Dieu, notre Sauveur, la séparation. Alors, ne remets pas à demain ta démarche, mais viens à Jésus ce matin. Alléluia. Donne-lui ton cœur avec simplicité, sincérité, définitivement. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus être sans Dieu, sans espérance, sans Christ, mais je veux me réconcilier. Et par la repentance, on en a parlé hier avec les jeunes qui se préparent au baptême, on en a parlé. La repentance, c'est ce jeune homme qui est maintenant gardien de cochons. Il a dilapidé une fortune dans la débauche et il ne peut même pas manger le menu des cochons. Il est là dans une misère noire. Et brusquement, une prise de conscience et une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai ma repentance, en fait. Mon père, je ne suis pas digne que tu m'appelles encore ton fils. Je t'ai déshonoré. J'ai brisé ton cœur par mon comportement. J'ai piétiné la respectabilité de ta personne. J'ai été fou. J'ai été insensé. Si tu voulais m'accepter comme un de tes serviteurs. Et là, la réconciliation. Le père se jette au cou de son fils. Il le serre contre sa poitrine, presque à l'étouffer. Hein. Moi, je l'aurais presque étouffé. Moi. Et vite, il ordonne. Enlevez-lui ses vêtements qui sentent le cochon, qui sont usés en haillons, là. Et revêtez-le d'un habit princier. Mettez-lui l'anneau filial au doigt et préparez un festin que même les meilleurs repas à Aubagne ne sauraient égaler. Hein. Et mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. La réconciliation, c'est grand. C'est glorieux. Moi, je dis que c'est le plus grand des miracles. Il y a des miracles et il y a des grands miracles, comme le dit les Actes des apôtres. Et parmi les plus grands des miracles, eh bien, il y a le miracle de la réconciliation. Quand Dieu enlève mon péché en me les pardonnant et quand il m'accueille et il m'établit dans une relation filiale délicieuse, que le Seigneur soit béni. Ne reste pas séparé de Dieu plus longtemps, mais aujourd'hui, donne ton cœur au Seigneur. Et puis, le dialogue continue et nous lisons au verset 37 du même chapitre 13 ces paroles. Verset 37, moi je vous lis le 36e pour mieux comprendre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Les pourquoi? J'aimerais te dire que tous les pourquoi qui viendront dans ton cœur et que ta bouche prononcera, tous tes pourquoi, tous tes questionnements seront des facteurs de trouble. Mais vous, bien sûr, ici, vous ne posez jamais la question pourquoi. Mais bien sûr que si. Moi comme vous, notre nature est la même et il est naturel face à toutes les situations que nous avons à gérer et que nous ne comprenons pas, je reviendrai sur ce verbe, nous disions, mais pourquoi? Pourquoi? Quand je pose cette question, pourquoi, elle équivaut à une incompréhension. Je suis en train de dire, Je ne comprends pas. Et il y a dans la vie chrétienne des circonstances que nous ne comprendrons pas. Lorsque je parle de comprendre, je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle. Je pense qu'on a tous un QI à peu près moyens qui nous permettent quand même. C'est pas au niveau cérébral que je me situe. Parce que le verbe comprendre, quand Jésus dit, vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas. Ça vient du latin qui associe deux termes qu'on pourrait traduire par prendre avec soi. comprendre, c'est prendre avec soi, c'est accepter, c'est accepter, c'est accueillir la chose, comprendre. Et quand Pierre dit « Mais pourquoi ?» il est en train de dire « Je ne comprends pas, je n'accepte pas en moi, je n'accepte pas ça. » Vous savez, quelques minutes avant, Jésus qui enlève sa tunique, sa belle tunique, et qui se ceint d'un linge d'esclave, il prend une bassine d'eau et il va pour laver les pieds de ses disciples. Et il vient vers Pierre, le même Pierre. D'ailleurs, souvent, c'est lui qui démarrait au quart de tour. Il vient vers Pierre pour lui laver les pieds. Et Pierre dit « Non, jamais !» Ça, c'est le pourquoi de l'incompréhension. « J'accepte pas, je comprends pas !» D'ailleurs, à la fin, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus va leur dire « Comprenez-vous ? Comprenez-vous ? » Autrement dit, « Acceptez-vous ? Est-ce que vous prenez ? Est-ce que vous incorporez l'exemple que je vous ai donné là ? Comprenez-vous ? Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est un état du cœur qui doit être hospitalier pour accueillir des vérités qui ne sont pas naturelles, mais qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et tu te trouveras fréquemment dans des situations qui vont susciter en toi un défi, à savoir si tu vas, eh ben, durcir ta position réfractaire, c'est l'incompréhension, donc c'est l'inacceptation, ou si tu vas au contraire dire, Seigneur, tu as raison, j'adopte une attitude qui va accueillir, qui va prendre avec. Je vais recevoir, je vais accueillir. Voilà. Je ne sais pas où tu veux en venir, mais je prends. Je ne me pose plus la question pourquoi, je te fais confiance, parce que tous nos pourquoi, je le répète, généreront du trouble. Et puis, le dialogue se termine et j'en arrive à mon quatrième facteur de trouble, au verset 38. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?» en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Quatrième facteur de trouble, le reniement. Le reniement. Je vous assure que l'ambiance là, au terme de ces quatre facteurs qui ont été énoncés, elle s'est alourdie, chargée de trouble. Ils avaient vraiment plus le moral, les disciples. Le facteur du reniement, le synonyme du reniement, c'est, en fait, c'est le rejet. C'est le rejet. Dans le texte que Karim nous a lu, dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, lorsque le Sauveur nous est dépeint comme cela, voilà, il a été rejeté, il a été abandonné. Nous l'avons dédaigné. Autant de verbes qui expriment cette souffrance qu'on inflige par le rejet. Eh bien, j'aimerais te dire que tu traverseras le rejet. Tu rencontreras le rejet. Le sentiment d'être rejeté. Et ce sentiment, bien sûr, engendre une douleur, un trouble. Ton cœur sera troublé par un sentiment de rejet. Que c'est terrible le rejet. Le rejet qui, je le paraphrase un petit peu, le rejet qui est en train de me dire, toi je te veux pas. Toi je t'apprécie pas. Je n'apprécie pas ta présence. Non. J'ai pas d'atome crochu, j'ai pas d'affinité, tu me plais pas, tu m'intéresses pas, on n'a pas les mêmes valeurs, enfin on peut conjuguer comme ça le sentiment du rejet. Jésus prépare et arme ses disciples en les avertissant sur le fait qu'à cause de son nom, ils seront rejetés. Moi, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, c'était, heureusement pour moi, pendant les grandes vacances d'été de l'année 1971, au mois d'août, en entendant la parole de Dieu, j'ai été bouleversé, j'ai donné mon cœur à Jésus, c'était les vacances. Après, il y a la rentrée. Et en septembre, au lycée, j'ai retrouvé tous mes complices de tous les mauvais coups que nous faisions avant les vacances. Alors, il y avait le tcherk, comme il m'appelait, d'avant, et là, ils ont découvert un autre tcherk. Et ça ne les a pas forcément beaucoup réjouis, parce qu'ils préféraient l'autre. Moi, mon bonheur, c'était de leur parler de ma rencontre avec Jésus, du changement, de la transformation, du bonheur, de l'espérance. Et quand je leur ai parlé comme ça, eh ben ils m'ont rejeté, en fait. Ils m'ont rejeté. Et très, très tôt, je n'avais même pas pris encore le baptême. J'ai été confronté à cette réalité, le rejet. Pratiquement tous mes complices de jadis m'ont tourné le dos et même certains m'ont affublé de surnoms. Je suis devenu au lycée du Parc à Lyon le curé. Les mêmes avec lesquels on faisait des trucs sordides, en me voyant dans la cour de mon lycée, ils disent « Salut curé !» D'autres « Salut Jésus !» La moquerie, la dérision, le rejet. Dans ma propre famille, lorsque maman, moi-même, mes deux sœurs sont converties, mais des cousins, des oncles, des tantes n'ont pas compris cela. Et il y a eu le rejet, l'incompréhension. Mais pourquoi ? Et il y a eu un rejet. Mon frère, ma sœur, tu auras à surmonter le rejet qu'on t'infligera parce que tout simplement, tu es devenu enfant de Dieu. Un père, un jour, a dit à sa fille des paroles d'une cruauté incomparable. Sa fille qui menait une vie de débauche, boîte de nuit, alcool, drogue, mauvaise fréquentation, une vie de misère. Sa fille, un jour, va entendre l'évangile, découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Elle va donner son cœur à Jésus et sa passion va devenir de lire la Bible, d'aller à l'église, de chanter des cantiques. Et quand son père a vu ça, il lui a dit, écoute, je te préférais avant. Quel brisement pour la fille. Quel brisement. Le rejet. L'incompréhension. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les rejets qui te seront suscités ne te découragent pas. Persévère dans ton attachement d'amour à la personne de Jésus. Persévère. J'en arrive ici à ma deuxième partie du message. Jésus voit dans quel état troublé se trouvent ses disciples et il leur adresse ces paroles que nous avons lues en introduction et il va leur lister une médication parce que Jésus soigne nos troubles. Gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, ça c'est l'encouragement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire au Seigneur. On va rédiger une ordonnance ce matin. Jésus, le divin médecin, établit une ordonnance, une médication. Il soigne le trouble. La médication principale, c'est « croyez en Dieu et croyez en moi ». Ça veut dire « faites agir votre foi, activez votre foi ». Parce que c'est par la foi, et ça ne sera jamais que par la foi, que tu triompheras de tous tes troubles. Et ensuite, tout au long de ce chapitre 14, Jésus va détailler la médication. Et il va donner cinq remèdes. Nous n'en verrons qu'un ce matin, et quelqu'un est en train de dire ouf. Nous en verrons deux mardi soir. Le quatrième, le mardi suivant. Et Dieu voulant, nous verrons le cinquième remède le dimanche dans 15 jours. Vous êtes déjà bien fidèles au rendez-vous de l'Église, mais je vous encourage à l'être encore plus à ces rendez-vous. On va ensemble parcourir l'ordonnance du Seigneur afin d'être libre et vainqueur de tous les troubles qui voudraient nous fragiliser. Ici, le premier remède, c'est quand même étrange. C'est étrange. Jésus voit ses disciples troublés, complètement abattus, et il leur parle du ciel. Il leur parle du ciel. Et il en parle avec des précisions, des explications, et il leur parle de la maison du Père, où il y a plusieurs demeures, et il leur dit que s'il les laisse, c'est pour aller leur préparer une place dans le ciel, et quand il l'aura préparé, eh bien, il reviendra les prendre afin que là où il est, ils y soient aussi et que nous y soyons aussi. Gloire à Dieu. On a chanté un cantique, moi je l'ai noté parce que ça m'a tilté. Un jour dans ta gloire, je verrai ta face. On a chanté dans un cantique. Hein. Un jour dans ta gloire, je verrai ta face. Eh bien ça, mes amis, c'est notre espérance. Et quand ton cœur est troublé, mon frère, ma sœur, le premier remède que Jésus te propose, c'est de décoller tes yeux de tes problèmes et de diriger tes regards vers ton espérance. L'espérance. Moi, je veux me nourrir de l'espérance. Elle est vivante. Elle est réelle. Dans le vocabulaire biblique, espérance est synonyme d'assurance, de certitude. Ce ne sont que les incroyants qui nous lancent un défi. L'avez-vous vu? Qu'en savez-vous? Qui vous permet d'affirmer? Eh bien oui, mais quand j'active ma foi, croyez en Dieu et croyez en moi, alors ça remet en valeur une glorieuse certitude. Un jour, mes yeux verront Jésus. C'est mon espérance. Et je veux nourrir mon âme de mon espérance. Je veux toujours réorienter mes pensées. Je veux garder ce point de mire enthousiasmant. Mon espérance, c'est pas une retraite avec quelques carottes dans mon potager. C'est pas ça mon espérance. Bon, si je peux, c'est bien aussi. Hein. Je suis pas contre. J'en ai un petit peu moi. Bon, j'ai pas la main verte. J'essaye de la verdir un peu pour. On n'est pas contre ces choses-là, mais il y a quand même une réalité qui transcende et qui dépasse ces joies légitimes mais éphémères. C'est notre espérance. Un jour, nos yeux le verront, le Seigneur. Après avoir marché, servi, aimé, loué, après avoir persévéré dans les moments difficiles, triomphé des déserts et des tempêtes, après toute une longue marche, pas toujours linéaire et monocorde, souvent jalonnée de difficultés, voici venu le moment où les portes du ciel s'ouvrent et j'entre dans mon espérance. Lorsque l'apôtre Paul arrive près du terme de sa vie, oh, il dit, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas un homme nostalgique qui tremble devant la mort. Il est habité d'espérance, mes amis. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, la réservera aussi pour tous ceux comme cela qui suivent ce même chemin. L'espérance. Ils ont été saisis brutalement, enchaînés, frappés. Paul et son collègue Silas, jetés dans la prison. Tout simplement pour avoir annoncé le nom de Jésus. Jetés en prison, ils ont mal partout, ils sont dans la cellule disciplinaire de la prison de Philippe, ils sont là, mais il y a quelque chose qui brûle dans leur cœur. Ils ont mal, mais ils sont heureux, pas d'avoir mal, mais ils sont heureux parce qu'ils ont une espérance. Alors la Bible nous dit, ils commencent à prier, toujours bon de commencer par prier. Et très rapidement, en priant, qu'est-ce que vous voulez? Ils se connectent au ciel. Amen. La prière te permet de te connecter sur Dieu. Quand tu pries, alors dès que un appareil électroménager, par exemple, est boum, branché, ben, ça fonctionne. Parce qu'il y a une énergie qui se communique et ça fonctionne. Voyez-vous? Alors ils se connectent sur le Seigneur. La vie de Dieu les envahit et ils se mettent à chanter des cantiques. Alléluia. Et ce n'est pas des cantiques, oh là là là. C'est des cantiques, Alléluia. C'est autre chose. Ouais, la Bible nous dit le contenu de leur cantique, le message de leur cantique. Ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Amen. Je suis persuadé que dans les cellules voisines, tous les prisonniers ont été complètement interloqués. C'est la première fois qu'en prison, ils entendaient une telle musique, de tels sons. Je ne sais pas, Annabelle, ils chantent souvent les louanges, malheureusement pas trop. Hein. Dans les cellules de prison, qu'est-ce qu'on entend comme bruit? C'est le bruit de personnes forcenées, révoltées, amères. Ce sont des insultes, ce sont des paroles injurieuses, des défis, des paroles violentes. On entend ça dans une prison. Nous avons notre grande fille, elle est en responsabilité aussi dans une prison. C'est ce qu'elle entend. Elle entend des expressions sonores qui sont... la démonstration d'une haine, d'une fureur, d'un désir de vengeance, la violence. Mais là, c'est un autre son. C'est un message qui met en lumière l'espérance qui habitait ces deux hommes. Les louanges de Dieu. La grandeur de son salut. Moi, frères et sœurs, moi je crois que nous sommes tous appelés à nous émerveiller constamment du si grand salut de Dieu. Surtout, ne me faites pas un amen. Ah non, non. Oui ou non? Nous devrions nous émerveiller de ce que la Bible appelle le si grand salut de Dieu. Et si... l'expression est utilisée, c'est pour montrer qu'on peut pas, on peut pas. Il est tellement vertigineux qu'on peut pas le quantifier. C'est le si grand salut de Dieu. Seigneur, tu es venu jusqu'au fond de l'abîme où j'étais et tu m'en as sorti délicatement mais efficacement et tu as fait de moi un racheté de l'Éternel. Mais c'est merveilleux cela, hein. C'est merveilleux du si grand salut de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est produit dans cette prison et vous avez vu ce qui s'est passé? Alors bon, il y a un pasteur, il a eu son interprétation, ça vaut. Hein. Il a dit, moi j'imagine que tous ces cantiques de louanges sont montés vers le Seigneur assis sur son trône, ça a réjoui le cœur de Dieu, et ça l'a tellement réjoui que, avec son pied, il a battu le rythme des cantiques, et comme la terre est son marchepied, ça a fait trembler les portes des prisons, de la prison. Bon, ça, c'est son interprétation. Mais en tout cas, je veux constater la démonstration de puissance divine qui a visité cette prison. Les verrous ont sauté, les portes se sont ouvertes. Le responsable de la prison et toute sa famille s'est repenti de ses péchés. Il y a eu conversion. La prison est devenue une église avec un merveilleux service de baptême. Alors, le jour où il y a un service de baptême en prison, quelle gloire, hein, quelle gloire, alléluia. Et tout cela parce qu'il y a deux hommes qui se sont nourris de leur espérance. Ils n'ont pas considéré leur chaîne et leur contexte. Ils ont levé les yeux. Et ce matin, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur nous disait, lève les yeux et nourris-toi de ton espérance. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, il y a ce texte merveilleux qui nous est proposé à partir du verset 17. Écoutez bien et lisons ensemble. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, autrement dit c'est certain, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Écoutez bien, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voici une des nombreuses raisons pour lesquelles il est important que tu te nourrisses de ton espérance. Ton espérance, c'est l'encre de ton âme. Et cette encre, elle est attachée au ciel. Et elle va conférer donc à ton âme, puisque c'est l'encre de ton âme, la stabilité, la garantie. C'est l'image du bateau violemment assailli par les vagues et la tempête. Les récifs ne sont pas loin, mais il y a l'ancre. Sans l'ancre, le bateau va se cracher contre les rochers, être détruit. Mais il n'en est rien, parce que l'ancre stabilise, maintient, garde le navire en place. L'espérance qui est la tienne, c'est l'ancre de ton âme. Lorsque tu es assailli toi-même par des vagues impressionnantes, par des vents violents, attache-toi à ton espérance. Lève les yeux. C'est le premier remède de l'ordonnance qui va te garder stable au milieu des troubles. Ton âme, autrement dit, tes pensées, tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, enfin, tout ton être intérieur, là. Tout cela va être stabilisé. Dieu veut des chrétiens stabilisés. Amen. Stabilisés. Pas stressés. Pas en proie à de l'agitation stérile, au fond. Pas des chrétiens qui se remettent en question tous les quarts d'heure, qui font des volte-face inconstants dans leur foi. Non, 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 des chrétiens stabilisés. Ce qui va stabiliser ton âme, c'est de te fixer à ton espérance. Dernier texte avant de prier, dans 1 Jean chapitre 3, et le verset 1, 2 et 3. 1 Jean chapitre 3. L'apôtre Jean va exprimer cette exhortation. Voyez, autrement dit, portez les yeux, voyez, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ce merveilleux verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. J'aimerais citer une deuxième conséquence bénie de s'attacher à l'espérance. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Je suis débarrassé de tous les indésirables de mon âme. Je suis débarrassé. De me nourrir de mon espérance, ça me débarrasse de tous les encombrants, de tous les souvenirs peu édifiants, de tout ce que j'ai pu traverser par le passé qui n'est pas très très glorieux. J'en suis délivré. J'en suis délivré. Ce qui gangrène le bonheur de trop de chrétiens, c'est qu'ils donnent de l'importance à des choses qui ne devraient plus du tout en avoir. S'attacher à notre espérance nous déconnecte de tous les facteurs non édifiants. Moi, ça m'intéresse pas, moi, de rappeler à ma mémoire ce que telle sœur m'a fait un jour en 1800 et quelques... Ça m'intéresse pas, c'est pas édifiant. Un jour, il y a une chrétienne, elle est venue, vous savez, toute frétillante là, hein, vers une autre. « Sœur, est-ce que vous savez la dernière ?» Et la chrétienne dit, avant de me dire, bon, quelques questions. Est-ce que ce que vous allez me dire va me faire du bien ? La femme dit, pas vraiment, hein. Bon, deuxième question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Écoutez, moi, on me l'a dit. Quelqu'un à qui on avait dit me l'a dit. Donc, dans ces conditions, ma chère sœur, ne me dites rien. Mais ça m'intéresse pas, moi. Des choses qui ne m'édifient pas. Puisque ma Bible me dit, édifiez-vous les uns les autres. Tout ce qui n'édifie pas, je dois en être purifié, débarrassé, nettoyé. Et le moyen d'en être nettoyé, mais c'est de me nourrir de l'espérance, gloire à Dieu. Il y a des futilités qui encombrent le cœur de trop de chrétiens, font comme une digression, voyez, et on passe à côté de l'essentiel. Moi, je veux me nourrir de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est... Oh, c'est ma précieuse espérance. Je sais qu'un jour mes yeux verront celui qui est mon sauveur, qu'il y a 52 ans j'ai accepté comme mon Seigneur en passant par les eaux du baptême. Celui qui m'a des millions de fois accordé son secours, sa bonté, sa grâce. Celui qui, depuis 52 ans, m'accompagne chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, etc., jusqu'à maintenant, et il le fera jusqu'au bout. C'est de ça que je veux nourrir mon âme. Mon frère, ma sœur, ne te nourris pas d'herbes amères, de vieilles rancunes, de vieux échecs qui t'obsèdent, qui rebondissent dans ton présent et qui l'infectent. Non, Jésus a dit, face au trouble, croyez en Dieu et croyez en moi. Faites actionner votre foi et en actionnant votre foi, déjà, premier remède, nourrissez-vous de votre espérance. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, à son voisin, tu es sauvé, réjouis-toi. Un jour un pasteur arrive, c'était le commencement d'une pastorale, ça allait commencer dans 5 minutes, et il remarque 5 ou 6 collègues qui sont là en rond. Et ils ont un visage grave, les sourcils en accent circonflexe inversé, avec la banane à l'envers, et ils sont là. Et le frère arrive, et il dit, mes chers frères, réjouissez-vous, vous êtes sauvés. Et il a voulu ramener l'espérance. Il peut y avoir des problèmes, des situations complexes, face auxquelles on s'interroge, comment gérer quelle solution ? Oui, oui, d'accord, mais enfin, ces choses-là, ces troubles-là ne doivent pas éteindre le rayonnement de notre espérance. Quel est ou quels sont les facteurs qui te troublent en ce moment ? Eh bien, prends courage. Ton Seigneur est en souci de te sortir de tes troubles, de les soigner. Et première étape, de te nourrir de l'espérance. Voulez-vous qu'ensemble, nous puissions prier le Seigneur ?